France Musique.
Musique et moi,
Valérie Zanatti,
Priscille Lafitte, France Musique.
À l'heure où s'écroulent les mondes, recevez ce don de printemps qui vient de l'ombre au-delà du l'été en réponse à de plus beaux dons pour que toujours, indestructible, fidèle malgré les saisons, la haute liberté de l'âme qui porte le nom d'amitié me sourit aussi gentiment qu'il y a 30 ans. La grille du jardin d'été et Leningrad sous la neige sont apparues, on dirait, dans ce livre, dans la brume des miroirs magiques, et sur le l'été pensif, le roseau renaît et chante.
Thank you.
Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir dans les studios de France Musique ce matin pour ce Musique et moi. Nous allons parcourir votre discothèque classique, Valérie Zenati, en tant qu'autrice pour la jeunesse, en tant que scénariste, mais aussi en tant que traductrice de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, qui a quitté ce monde au tout début de l'année 2018. Nous allons évoquer sa mémoire ensemble, un tout petit peu plus tard lors de cette émission, sa mémoire musicale, auditive, du moins ce que vous en avez perçu. Mais arrêtons-nous d'abord sur ce quatuor de votre vie à vous, peut-être, Valérie Zenati, pour reprendre le nom de cette œuvre de Smetana, dont nous avons entendu le deuxième mouvement, l'Allegro Moderato alla Polka. Smetana écrit qu'il a exprimé là le côté brillant de la vie, la jeunesse. Est-ce que cette musique résume aussi une partie de votre vie, Valérie Zenati?
Alors cette musique, je ne sais pas si elle résume, mais en tout cas elle a accompagné le moment très précis de ma vie que vous venez d'évoquer, qui est la disparition d'Aaron Appelfeld en janvier 2018, puisque c'est le moment où j'ai écouté ce quatuor, et quasiment exclusivement. En tout cas, je l'ai écouté plusieurs fois par jour. Et il m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture
Pourquoi ce quatuor-ci?
Pour des raisons, d'abord peut-être personnelles, mais enfin quand je dis personnel, c'est un mot un peu à la fois fourre-tout et écran, mais surtout parce que je crois que dans cette démarche d'écrire une autobiographie musicale, il y avait quelque chose qui me touchait. Et puis Smetana a écrit ce quatuor au moment où il est devenu sourd. Et la première note du premier mouvement serait la dernière note qu'il a entendue avant de devenir sourd. Et il y a quelque chose pour moi d'extrêmement poignant dans l'idée que au moment où moi je percevais qu'une voix s'était tue, la voix d'Aaron Appelfeld, que je porte pourtant en moi, j'écoutais cette œuvre d'un compositeur pour qui le son en général s'était tu aussi. Donc je crois qu'il y a eu une rencontre entre ce que je traversais et de l'endroit d'où cette œuvre est née.
Ah, vous avez lu, Valérie Zenati, en ouverture de cette émission, un poème d'Anna Armatova, poétesse oui. russe, qui a écrit ces vers que vous avez lus en mai 1940 à Leningrad, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. En quoi est-ce que ce poème vous parle quand il parle de haute liberté de l'âme qui porte le nom d'amitié? Est-ce qu'il y avait ça entre vous peut-être avec Aaron Appelfeld?
Exactement. Je crois que dans l'amitié, il y a. Elle décrit là ce mouvement d'élévation que peut procurer l'amitié et que l'on donne, que l'on reçoit, que l'on partage. Et j'étais très sensible. Aussi parce que vous avez cité un lieu et une date, et je pense que ce n'est pas rien d'écrire un poème à Leningrad en 1940. Et ce n'était pas rien de toute façon d'écrire de la poésie dans ces années-là, et des années que Akhmatova décrit comme celles d'une très grande misère et d'une très grande difficulté à vivre, tout simplement au quotidien, à manger, à s'alimenter, à être en bonne santé. Et pourtant, on sent dans ses écrits, ses échanges, que c'est la force de l'amitié, la force de l'amour qui ont fait qu'elle et d'autres ont tenu. Et voilà, j'ai pensé à ce poème comme j'aurais pu penser à beaucoup d'autres, mais parce qu'il y avait précisément ce mouvement très aérien de l'amitié qui pour moi est toujours lié à la bonté et peut-être aussi à d'autres choses, mais je pense qu'il y a dans l'amitié profonde une bonté qui me fait penser à un autre écrivain qui a écrit sur cette époque, c'est Vassili Grossman, dans Vie et Destin. Je cite vraiment de mémoire, je ne crois pas au bien parce qu'on a fait beaucoup de mal en son nom, mais je crois à la bonté. Et voilà, il y a ces liens qui se sont faits pour moi entre ses auteurs et ses perceptions de l'amitié. Thank you.
Je vais demander à écouter cette méditation de Thaïs Valéry Zenati. C'était l'interprétation d'Itzrak Perlman, accompagné de l'ensemble Abbey Road, dirigé par Laurence Foster. Et vous avez même amené en studio avec vous cette méditation sous forme de vinyle.
Oui, oui, parce que c'est le premier disque que j'ai eu dans ma vie et qui m'a été offert lorsque j'étais en CM2 à l'école primaire à Nice par mon institutrice, que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup, qui savait que je venais de commencer des cours de violon depuis un an ou deux, je crois, à l'époque. Et elle m'a fait ce cadeau en me prenant à part, en me disant que normalement, les enseignants ne faisaient pas de cadeaux aux enfants. Il y avait comme ça quelque chose qui était un peu transgressif dans ce cadeau qu'elle m'a fait. Mais elle a eu envie de me le faire et j'ai écouté ce disque dans lequel il y a à la fois donc joué par Joseph Sakonoff, à la fois la méditation et puis d'autres morceaux assez voilà connus comme la valse sentimentale de Tchaïkovski et une chardasse de Monti ce disque a été pour moi une porte d'entrée. Alors je venais de commencer, je prenais des cours de violon. Le violon a été à ce moment-là une rencontre très importante dans ma vie. Évidemment, au bout d'un an ou deux, je n'étais pas capable de jouer une mesure de ce morceau, mais c'était la porte d'entrée pour moi dans un monde sensible qui me donnait le vertige. Et cette méditation par laquelle commence le, je ne savais pas ce que voulait dire le mot méditation. Je ne savais pas pourquoi ça s'appelait la méditation de Thaïs. Je ne savais pas qui était Massenet. En fait, je ne savais rien. Et dans le même temps, quelque chose de cette musique m'élevait là aussi et me procurait ce sentiment. Donc voilà, c'est mon premier disque et il m'a été offert par Madame Maracci, qui était quelqu'un de très important pour moi dans ces années-là.
Mais alors, la rencontre avec le violon, s'est faite comment ? Alors, vous avez choisi, vous, cet instrument ?
Oui, je ne viens pas d'une famille de musiciens. Je viens d'une famille où on écoutait de la musique, mais où personne n'était musicien. Et j'ai retrouvé récemment, j'ai fait le lien entre deux événements qui semblent assez, qui ne sont pas reliés, mais qui le sont, je crois. Parce qu'il se trouve que j'ai commencé à écrire, j'ai retrouvé le premier carnet dans lequel j'ai commencé à écrire, enfant. Et donc, les débuts de mon écriture intime, on va dire, sont liés au violon, puisque la première chose écrite, c'est le 9 mai 1979, où j'écris « Aujourd'hui, nous sommes allés chez un luthier louer un violon avec Monsieur Bertoni, mon professeur de musique. Nous avons pris un demi. Je suis très contente. » Ce sont les premiers mots que j'ai écrits pour moi et en dehors du cadre scolaire, peut-être, ou quasiment les premiers. Et en cherchant dans les dates, je me suis aperçue que on était 2 mois après un événement télévisé qui m'a profondément marquée et traumatisée, et qui était la diffusion de la série Holocauste au dossier de l'écran. Série par laquelle j'ai découvert, si on peut utiliser ce terme, de manière un peu plus accessible à ma compréhension, l'extermination des Juifs d'Europe. Et j'ai des souvenirs confus de violon dans cette série. Et je pense qu'il y a eu une sorte d'appel en moi. Je n'ai pas voulu simplement faire de la musique, j'ai voulu jouer du violon. Et pour moi, le violon, ça peut sembler un cliché, mais c'est ainsi, était relié à une sorte d'âme juive d'Europe centrale dont je me sentais très proche.
Le violon porte un langage.
Oui, quelque sorte. Il porte un langage, il fait corps avec le corps. Il y a dans la façon de saisir un violon et de le caler contre sa joue, à la fois une tendresse et un sentiment d'union que j'ai ressenti tout de suite.
Alors on va entendre une autre vibration ce matin, Valéry Zenati, celle de la trompette de Louis Armstrong. Et vous allez nous raconter qu'est-ce que cette vibration convoque comme souvenir chez vous.
Thank you.
Valérie Zenati, on s'est un peu éloigné du violon, on s'est éloigné de l'histoire juive qui vous relie à cet instrument à cordes et à la musique. Vous nous l'expliquiez juste précédemment. Nous sommes là avec Louis Armstrong à la fin des années 20 à Chicago. Louis Armstrong avait longtemps joué avec sa femme Lil Hardin, puis en quintette, en septette, les fameux Hot Five et Hot Seven. Mais ici, c'est avec Earl Hines qu'il s'associe pour un duo, Weatherbird, qui sonne d'avant-garde. Vous nous avez dit que vous n'avez pas grandi dans un milieu musical, Valérie Zenati, mais alors comment cette musique américaine est venue jusqu'à vous?
Alors, personne ne jouait d'un instrument, mais mon père est absolument passionné de jazz. C'est une encyclopédie, c'est un puits de science. Je pense que le jazz est une de ses raisons de vivre et donne sens à sa vie. J'ai grandi avec du jazz matin, midi et soir à la maison. Et il y avait une sorte de presque de guerre des comment on appelait ça, les chaînes-filles, de guerre des chaînes-filles entre mon père, ma sœur et moi, parce que lui mettait du jazz à fond et nous dans la pièce à côté on mettait de la variété. Bon, on écoutait beaucoup de variété, beaucoup de pop, beaucoup de ma sœur aime beaucoup Alain Chamfort, donc il y avait, je sais pas, Alain Chamfort.
Et vous?
Il pouvait y avoir Barbara. Ouais. Il pouvait y avoir Jean-Jacques Goldman, Brel, et ou la méditation de Thaïs. Et il y avait comme ça cette guerre des musiques à la maison qui a duré très longtemps, où chacun augmentait le son. Et mon père vit avec le jazz. C'est vraiment un mystère que j'aimerais déchiffrer un jour. Bon, il est là, je peux lui poser la question et je la lui pose parfois. Mais ça reste quand même mystérieux pour moi de comprendre comment cet homme, entendant un jour une émission de jazz à la radio en Algérie, est tombé dedans, a plongé et en a fait, oui, une orientation dans sa vie, un accompagnement. On vivait à Nice, comme je le disais, et donc chaque été, on prenait des couvertures et on allait s'installer aux arènes de Signé pour le festival de jazz. Et j'ai pu voir, moi, toute petite, Fats Domino, Lionel Hampton. Je suis même montée sur scène, un peu poussée par mon père, pour embrasser Lionel Hampton, qui dégoulinait, qui transpirait. Et je n'avais évidemment pas conscience que je voyais des monstres sacrés à ce moment-là. J'étais une petite fille qui allait avec ses parents au festival de jazz. Donc le jazz, disons que pour moi c'est une musique contre laquelle j'ai été en guerre, on va dire, enfant ou adolescente. Puisque voilà, chacun cherchait à
imposer, débarquer,
voilà, ses goûts à la maison, mais vers laquelle évidemment je reviens aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, même si je ne peux pas dire que je la connais, mais c'est une musique qui me connaît.
Thank you.
Valérie Zenati, nous vous avons quittée adolescente, écoutant du jazz avec votre père, contrainte ou forcée. Nous voici avec Gustav Mahler, avec la 5e symphonie. Où est-ce que nous sommes actuellement dans votre récit de vie ?
Alors, nous sommes à Paris en 1991. Je reviens après 8 ans d'absence, puisque mes parents ont décidé d'aller vivre en Israël en 1983. Donc, j'ai vécu en Israël, dans le désert du Negev, à Beersheva, à partir de mes 13 ans. Et puis ensuite un peu à Jérusalem, où j'ai étudié aussi. Et en 1991, j'ai décidé de revenir en France et à Paris. Et c'est ici qu'un jour, justement, en écoutant France Musique, j'ai entendu, du haut d'une chambre de bonne dans le 8e arrondissement, j'ai entendu la 5e symphonie de Mahler, que je ne connaissais pas. J'avais vraiment, je pense encore aujourd'hui, une culture musicale qui est très restreinte peut-être et sans méthode. Voilà, je suis pas très méthodique, je pense, dans la façon dont je vais vers la musique. Je vais vers ce qui m'appelle, ce qui me touche. Et là, il y a eu ce premier mouvement de la 5e symphonie et je me suis acheté un CD et je l'ai écouté et ça rejoignait pour moi mes lectures de l'époque qui allaient beaucoup vers la Vienne d'avant-guerre à travers Stefan Zweig. Et pour moi, le retour en France ne signifiait pas uniquement un retour en France dans le pays qui m'avait vu naître et celui de ma langue maternelle, mais pour moi c'était aussi un retour en Europe. Je me suis forgé une conscience européenne très tôt, à travers l'histoire, à travers la musique, à travers des auteurs. Et dans les années 90, on parlait beaucoup d'Europe. Il y a eu le référendum Maastricht, la guerre en ex-Yougoslavie. Et donc dans ces années-là, oui, j'allais vers ce qui, pour moi, me racontait quelque chose de l'Europe.
Premier mouvement de la 5e symphonie de Mahler, Trauermarsch. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise est dirigé par Raphaël Kubelik.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Valérie Zenati, l'invitée de Musique et moi ce matin sur France Musique. Valérie Zenati, vous nous aviez dit que vous aviez trouvé un langage dans le violon. Quelle musique est-ce que vous avez trouvé dans l'hébreu ?
Ah, l'hébreu, c'est une langue qui m'est d'abord parvenue par sa musique et sa musicalité, parce que je viens d'une famille plutôt pratiquante. Et donc, mon premier contact avec l'hébreu est celui des prières. Et donc, de prières dont je ne comprenais pas le sens par les mots, puisque je ne parlais pas hébreu, mais dont tout de même un sens me parvenait par la mélodie. Et donc, il y a déjà un rapport à l'hébreu qui passe par là. Et puis ensuite, lorsque nous sommes allés vivre en Israël, je connaissais deux ou trois mots d'hébreu. Et là, le contact avec l'hébreu m'a d'abord fait traverser le désert d'une certaine manière. J'y pense en vous le disant, mais pour moi, l'enfance, c'est vraiment traverser la forêt. Et l'adolescence, ça a été en quelque sorte traverser le désert. Donc un désert où je ne trouvais plus le sens, puisque je ne comprenais pas ce qui était dit autour de moi. Et lorsque j'ai enfin réussi à approcher l'hébreu, c'est devenu la langue qui incarnait pour moi ma jeunesse, le mouvement, la prise de conscience, et aussi une confrontation intellectuelle avec le langage. Parce que quand on apprend une langue, à un moment donné, on est obligé de démonter le moteur et de comprendre comment ça fonctionne. Et l'hébreu est devenu à la fois la langue dans laquelle j'aime écouter les chansons d'amour que j'écoutais à l'adolescence, et pas que d'amour, mais aussi la langue qui me permet de réfléchir. Je crois qu'il ne se passe pas un jour sans que je me pose toute seule la question, mais d'où vient ce mot? Quelle est son étymologie? Comment il est arrivé là en hébreu? Et c'est une source qui continue de m'inspirer. Et l'hébreu a cette particularité, si on va plus vers la musique, d'être une langue qui aime la répétition, et étant construite à partir de racines, elle autorise et elle aime énormément les allitérations et les répétitions et les sons qui s'enchaînent les uns aux autres, un peu comme on enchaîne des perles. Donc il y a quelque chose dans l'hébreu. Même on me dit que lorsque je parle hébreu, je n'ai pas la même voix. Et donc il y a une tonalité dans l'hébreu qui n'appartient qu'à cette langue pour moi.
Parlez quel hébreu, vous, Aaron Appelfeld?
Ani medaber ivrit yom yomit.
Je parle l'hébreu quotidien.
Aval hi meot mushpat min haTanakh.
Mais c'est un hébreu qui est extrêmement influencé par la Bible.
Et le masé ha-safa haTanakhit hi moré haDerech sheli.
En fait, la langue biblique est mon guide.
Ha-mishpat haKatzar.
La langue courte, la phrase courte.
Ah, mishpat ha'uvdati.
La phrase factuelle.
Ah, mishpat ha'bilti mekori.
La phrase, tu ne cherches pas à être original.
Ha-mishpat she'en bo shum davar shel dekoratsia.
La phrase dans laquelle il n'y a aucune décoration.
Ze al regel achat ma sha'tanach melamed oti, ve'ulai hadavar hachashuv biyoter, less is more. Ze ma she'hu melamed oti.
C'est sur une jambe, selon l'expression talmudique, ce que la Bible m'enseigne. Et comme on dit en anglais, less is more.
Et autre mila achat, shehamila kimo bnei adam hem kdoshim.
Et encore un mot, comme celui que les êtres humains sont sacrés.
C'est une archive qui date de 2005 sur France Culture. Marc Voinchet reçoit alors Aaron Appelfeld dans son émission Tout arrive. Vous venez alors de traduire son livre « Histoire d'une vie » qui a reçu le prix Médicis du livre étranger. Et Aaron Appelfeld parle de son rapport à l'hébreu comme une langue sacrée. C'est bien vous qu'on entend traduire.
Oui, tout à fait. C'est moi, il y a quelques années, 15 ans.
Et il y a une douceur dans la voix d'Aaron Appelfeld qui, pour moi, se rapproche de l'interprétation qu'on a entendue de la première partita de Jean-Sébastien Bach en C mineur, une interprétation enregistrée par Isabelle Faust. Et ce violon se rapproche, je trouve, du timbre d'Aaron Appelfeld.
Je trouve, oui, votre choix m'a profondément émue parce que, effectivement, je pense que s'il fallait choisir un morceau de musique pour incarner ce que pouvait être la voix d'Aaron Appelfeld, c'était vraiment celui-ci. S'il y avait chez lui il avait une voix qu'il puisait très profondément en lui, dont on sentait qu'elle venait de loin, et qu'il maîtrisait toujours sans chercher à affirmer, à convaincre, il n'y avait rien de vindicatif dans sa voix, et c'était un souffle, c'était une voix qui était aussi un souffle. Et je sais aussi que moi j'y étais sensible et j'ai entendu sa voix à la fois dans son écriture et sa voix bien réelle et physique lorsque je l'ai rencontrée. Mais je peux témoigner que lorsqu'il venait en France, les auditeurs des antennes de Radio France notamment et les gens qu'il rencontrait en librairie étaient parfois émus aux larmes uniquement en entendant sa voix parler hébreu sans comprendre un mot de ce qu'il disait. Bon, moi j'étais là pour traduire. Mais avant même que je traduise, ils étaient touchés par cette façon qu'il avait de prononcer chaque mot et chaque lettre presque, et le sens de chaque lettre.
Ouais. Comment est-ce que vous répondriez à cette question ? Quel est l'hébreu d'Aaron Appelfeld ?
Alors, lui dit qu'il parle un hébreu quotidien. Il est peut-être un peu modeste en disant ça, mais je crois que ça va dans le sens de ce qui était sa préoccupation principale, qui était celle d'utiliser une langue limpide, claire, accessible à tous. Aaron Appelfeld n'a pas grandi en hébreu. Sa langue maternelle était l'allemand. Et après la guerre, il est arrivé en Israël à 13 ans et demi, comme même âge que moi, des dizaines d'années plus tard. Et il a dû se battre pour conquérir l'hébreu. Et dans ces années-là, en Israël, on exaltait beaucoup. C'était une période de grande idéologie. Et donc, on exaltait la langue riche, opulente, qui en mettait en quelque sorte plein la vue, si on peut dire. Et lui, il s'est crispé, je crois, face à cette approche. Et au contraire, après la guerre, après la perte de tout son monde, après ce tremblement de terre qui n'a jamais cessé de produire ses répliques et ses secousses, lui était en quête d'une langue limpide. Mais limpide ne veut pas dire forcément quotidienne. Et je pense qu'Aaron Appelfeld a tissé une langue qui n'appartient qu'à lui et qui est faite à la fois d'hébreu biblique ou d'intonation biblique, d'intonation yiddish, d'une sorte de relation à l'allemand en transparence et d'un hébreu moderne. Et voilà, il a une langue qui ne ressemble à aucune autre, mais qui est effectivement accessible à tous.
Nicht leicht zu reden mit Sinti-Jiddisch, aber ich will probieren, selbstverständlich. Die Song von mir Jiddisch ist geworden, ergibt sie euch eine heilige Sprache wie Hebräisch.
Oui, donc je, le Jiddisch pour moi, que je parle difficilement, est devenu une langue sacrée maintenant, comme l'hébreu.
Mais c'est ce Yiddish, Aaron Appelfeld, que vous parlez, est-ce que c'est le Yiddish que vous avez retrouvé d'un Yiddish de l'enfance, ou c'est un Yiddish que vous avez dû réapprendre, qui est un Yiddish renouvelé, si j'ose dire?
Je viens d'une famille juive assimilée.
Il reprend l'hébreu pour répondre. Oui.
Et ma langue maternelle est l'allemand.
שמעתי בילדותי גרמנית בעיקר, אבל גם קצת אוקראינית וגם קצת יידיש, מפני שהסבים שלי עוד דיברו קצת יידיש.
J'ai entendu dans mon enfance donc l'allemand, un peu d'ukrainien et aussi un peu de yiddish, car mes grands-parents parlaient encore yiddish.
יידיש למדתי בעצמי.
Mais le yiddish, je l'ai appris par moi-même.
הבנתי שאם אני רוצה להיות סופר, ששום דבר יהודי אינו זר לו, אני מוכרח ללמוד יידיש.
J'ai compris que si je voulais être un écrivain pour lequel rien de ce qui était juif ne lui était étranger, il fallait que j'apprenne le yiddish.
C'est une archive de 2005, hein, c'est la suite de la conversation qu'on écoutait tout à l'heure dans la matinale de Marc Boinchet sur France Culture. Et j'ai une question, Valérie Zenati, comment Aaron Appelfeld a-t-il fait pour écrire en hébreu des récits d'enfance qu'il avait vécu en allemand ou en yiddish? On entendait ses allers-retours entre les langues et sa construction linguistique. C'est étonnant.
Et c'est très émouvant là de l'entendre traduit par Rachel Hertel, si j'ai bien reconnu. C'est une très grande traductrice du yiddish. Et je pense que justement l'hébreu a permis... Souvent, Aaron Appelfeld disait que l'hébreu avait été pour lui comme un bandage sur une blessure, un bandage léger. L'hébreu n'a pas été contaminé par la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, et par l'entreprise d'extermination. Les ordres, les insultes, les humiliations n'ont pas eu lieu en hébreu. L'arrachement n'a pas eu lieu en hébreu. La peine, la perte, la mort ne s'est pas produite en hébreu, d'une certaine manière. Et je pense que c'est parce que l'hébreu était justement éloigné de l'expérience qu'Aaron Appelfeld avait vécue, qu'il a pu aller vers cette langue pour essayer de trouver des mots qui permettraient de s'approcher de ce qui avait été perdu, mais de ne pas être englouti. Parce que, et je crois qu'il avait ces discussions avec, il les a eues avec Paul Celan à Paris. Ils se sont croisés à Paris peu de temps avant le suicide de Paul Celan, qui venait de la même ville que lui, de Tchernowitz, et qui lui écrivait en allemand avec beaucoup de douleur. Et Aaron s'est senti protégé par l'hébreu, justement, encore une fois, parce que ça n'avait pas été la langue de la catastrophe. Et ça permettait, malgré tout, une sorte de décalage propice aussi à la littérature et à la fiction. Aaron Appelfeld n'est pas un témoin. Il n'écrit pas des récits de témoignages. Les historiens, je pense, s'arrachent les cheveux parfois en lisant Aaron Appelfeld. Mais ce n'est pas du tout une matière historique qu'il écrit. C'est ce qu'il appelait l'histoire d'une vie et de plusieurs vies. Et il aborde ce monde et cette perte comme un écrivain. Donc cette langue lui a permis d'aller vers la littérature et la fiction, puisqu'elle n'était pas la sienne ni celle de ses parents. במסעות הכתיבה שלי אני חוזר תמיד אל בית הוריי בעיר ואל בית הסבים בהרי הקרפטים ואל המקומות ששהיתי בהם יחד עם הוריי. אמרתי חוזר ואני מבקש לתקן. אני נמצא תמיד בבית הוריי ובבית הסבים אף שכבר שנים אינם קיימים. אלה מקומות הקבע שלי, מרות תמיד שלי, שאני חוזר אליהם כדי להחיות אותם. אך יש ימים שהצורך להיות בקרבתם נהיה דחוף יותר, משום העייפות, הדכדוך ודלדול הרגש. Sur mes chemins d'écriture, je retourne sans relâche dans la maison de mes parents, en ville, ou celle de mes grands-parents, dans les Carpates, ainsi que dans les lieux où nous avons été ensemble. J'ai dit, je retourne, mais je voudrais aussitôt me corriger. Je suis toujours dans ces maisons, même si elles n'existent plus depuis longtemps. Ce sont mes lieux inébranlables, des visions qui m'appartiennent et dont je m'approche pour les vivifier. Il est des jours où cette nécessité se fait plus pressante encore, à cause de la fatigue, de la mélancolie ou d'un sentiment d'effondrement.
Le Nigun, extrait des trois images de la vie hassidique d'Ernest Bloch, c'était Avi Avital à la mandoline. Il est aux côtés d'un ensemble harpe, violon, alto, violoncelle et clarinette sur son album Between Worlds.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Valérie Zenati. Vous nous parliez de l'hébreu d'Aaron Appelfeld un peu plus tôt. Et là, on entendait ce chant qui est une prière, c'est bien ça?
Alors, qui n'est pas chanté là, justement. C'est-à-dire que le mot nigun, d'ailleurs, est intraduisible en français. Parce que mandina, c'est un air de musique, mais un nigun, c'est un chant sans parole. Et c'est un chant le plus souvent chassidique. Donc, le mouvement chassidique, c'est un mouvement qui est né au XVIIIe siècle en Europe centrale, dans les communautés juives très pauvres et désespérées à ce moment-là pour différentes raisons. Et il y a eu plusieurs écoles chassidiques de différentes. Il y en avait une à laquelle, Aaron tenait, mais dont il se sentait très proche des Nigunim, justement. C'est la Chassidoute de Proussov, qui a été quasiment totalement exterminé et dont il est très difficile de trouver des nigounes. Donc là, vous avez proposé celui-ci qui est très beau, mais qui pour moi s'inscrit justement dans le manque de traces, même si on peut trouver, il y a des gens qui ont des discothèques certainement bien plus fournies que la mienne, mais en tout cas, ils témoignent de la perte de ce chant sans parole du nigun, qui est à la fois un appel, un cri, une extase aussi. Là encore, on s'élève et on exprime, surtout on arrive à exprimer les choses sans utiliser les mots, mais pas uniquement en se fondant que sur les instruments de musique. La voix humaine devient un instrument qui dit quelque chose, qui se passe de mots. Et pour Aaron, c'était l'état peut-être suprême, juste avant ou juste après le silence.
D'ailleurs, vous notez dans votre livre « Dans le faisceau des vivants », Valérie Zenati, que l'hébreu a longtemps été une langue chantée et non pas parlée.
Oui. L'hébreu est une langue qui nous vient de l'Antiquité, dans laquelle les textes bibliques que l'on connaît aujourd'hui encore ont été écrits, mais qui n'a pas été parlé pendant des siècles et presque 2000 ans. Alors, c'est à moitié vrai parce qu'on continuait à étudier en hébreu, mais c'était plutôt une langue réservée à l'étude ou chantée dans les synagogues. Et d'ailleurs, Aaron, qui avait un rapport à la foi et à Dieu qui était d'une grande complexité et qui lui appartient totalement, disait que l'écriture, pour lui, c'était la prière qui avait été perdue. Donc il y avait ce rapport-là à la langue sacrée, y compris quand elle n'est, entre guillemets, que littérature, ou justement quand elle se fait littérature.
Nous avons écouté juste précédemment une chanson chantée par Ava Albertstein. Que dit cette chanson qui est intitulée « Silence, Shaket » c'est ça ?
Alors oui, elle dit entre autres « La force ne m'intéresse pas, la colère ne m'oriente pas, le silence me régénère, aucun mot ». Et à la fin, lorsqu'elle dit que le silence la renforce, elle prononce le mot « Dmama », qui est absolument intraduisible en français, qui est un autre mot pour dire le silence, mais pour évoquer un silence absolu et immobile. Et c'est un silence qui est très présent, c'est un mot qui est très présent dans l'œuvre d'Aaron Appelfeld, que j'ai glissé en douce et en hébreu dans le faisceau des vivants, parce qu'il témoigne de cette qualité de silence très très profonde à laquelle Aaron Appelfeld était sensible et qui recelait en quelque sorte tout ce que l'être humain peut éprouver sans parvenir toujours à le dire. Et c'est vaste et infini, comme la musique.
Thank you.
C'est le troisième mouvement du trio mi bémol majeur, opus 100 de Franz Schubert. C'est une version enregistrée par Imogen Cooper, Raphaël Oleg et Sonia Wieder-Atherton. Est-ce que ce trio de Schubert vous relie à vous, à votre histoire personnelle, Valérie Zenati ou à Pelfeld, un peu aux deux?
Les deux, aux deux, aux deux. Et d'ailleurs, il fait partie aussi des morceaux que j'ai découverts en revenant en France en 1991. Et Aaron Pelfeld avait deux compositeurs dont il se sentait très proche, c'était Bach et Schubert, dans un livre qui n'est pas le plus connu de lui en France, qui s'appelle « Et la fureur ne s'est pas encore tue ». Un rescapé loue un château en Italie où il souhaite accueillir d'autres rescapés comme lui après la guerre. Et il pense qu'il y a deux choses qui peuvent les réparer, c'est la lecture de la Bible et l'écoute de Bach et de Schubert. Et personne ne s'intéresse à lui et à ce château et à ce projet. Et je crois que Aaron Appelfeld, qui n'a pas eu le temps d'apprendre à jouer de la musique, mais qui était très sensible et qui relisait ses textes en chantonnant, comme s'il relisait de la musique. C'est-à-dire, il ne lisait pas les mots, il chantonnait. Et c'est comme ça qu'il relisait ses textes. Il écoutait la musique qu'il entendait dans son texte.
Il psalmodiait son texte ?
Oui, alors je ne sais même pas si le terme psalmodier, parce que c'était plus... Oui, j'aurais du mal à trouver le mot précis et juste pour dire comment il a... à la fois il chantonnait, puis il murmurait, mais c'était toujours musical. Alors qu'il n'était pas musicien. Mais on avait le sentiment qu'il lisait une partition et pas un roman. Et c'est ainsi qu'il relisait ses textes et qu'il les entendait.
Est-ce que vous reconnaissiez les mélodies qu'il chantonnait ? Est-ce que ça avait du sens ?
Alors c'était très puissant et fin et complexe. Oui, ça venait du sens et aussi sans doute de ce qui était très important pour lui, du non-dit et de l'implicite et de l'ineffable présent dans le texte. Parce que son chemin d'écriture, c'était celui-là, c'était de sculpter le silence. Et non pas de tout dire et d'offrir au lecteur toutes les clés et toutes les interprétations et d'imposer ses propres interprétations au lecteur. Non, il essayait comme en peinture, en musique, de sculpter quelque chose de la vision ou de ce que l'on entend.
Mais est-ce que vous reconnaissiez des mélodies dans ses paroles chantées?
Alors non, pas des mélodies autres que les siennes. C'était sa propre musique alors qu'il n'était pas musicien. Voilà, encore une fois, mais il abordait la littérature comme de la musique. Et il disait que tant que ce n'était pas juste à son oreille, il ne lâchait pas le texte. Il laissait très souvent de côté ses livres pendant ses manuscrits reposaient pendant 4 ans, 5 ans, avant d'y retourner, de les relire, de les corriger, et là d'accepter la publication. Et donc il avait cette écoute musicale de ses textes qui est unique pour moi. Je n'ai jamais vu un écrivain se relire de cette manière. Il en existe peut-être. Mais en tout cas, lui, je l'ai vu et entendu le faire.
Et vous m'avez confié juste avant cette émission que vous, quand vous traduisez les textes d'Appelfeld, vous écoutez des Nocturnes de Chopin ?
Oui, ces derniers temps, oui.
Valérie Zenati, qu'est-ce que vous trouvez comme inspiration lorsque vous écrivez ou que vous traduisez avec Chopin?
Alors, écrire, je n'écris pas avec, en musique, ouais, de la musique, parce que ça, c'est absolument impossible, sinon je n'entends pas ce que je veux écrire. En revanche, avec le temps, depuis 3 ou 4 livres, je pense, il m'arrive assez souvent de traduire Aaron Appelfeld en écoutant Chopin. Je ne pourrais pas écouter du violon, par exemple, parce que c'est un instrument qui m'est trop proche et qui certainement couvrirait le texte. En revanche, le piano, que j'aime, qui est le deuxième instrument que je préfère au monde, peut m'accompagner. Je ne sais pas, il y a une sorte de complémentarité entre le piano, justement, qui ne fait pas d'ombre à la langue d'Appelfeld pour moi. Je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement, mais c'est un accompagnement qui, moi, me permet d'être soutenue sans que cela porte préjudice à la musique que je cherche en français. Enfin, je l'espère en tout cas. Peut-être qu'un jour, on découvrira que j'ai fait une grave erreur de traduire en écoutant Chopin et que les traductions, vraiment, n'ont aucune valeur. Mais c'est ainsi que je procède, en tout cas.
Donc le piano aussi porte une langue,
oui,
de la même manière que le violon.
Ah oui, bien sûr. Et j'y suis très sensible. Et lorsque j'étais enfant, d'ailleurs, beaucoup plus de petits camarades jouaient du piano que du violon. Et alors moi, je disais toujours, oui, mais moi, comme ça, où que j'aille, je pourrais emporter mon instrument. Et j'adore me promener dans Paris avec mon violon.
Est-ce que vous en jouez encore, du violon?
Ah oui, je joue. C'est-à-dire, j'ai repris le violon il y a 4 ans, après l'attentat qui a eu lieu à Nice, sur la promenade des Anglais. Plusieurs journalistes m'ont demandé des réactions parce qu'ils savaient que je venais de Nice et j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit. Mais surtout après ça, j'étais incapable d'écrire même un mail. J'ai perdu vraiment le rapport direct avec les mots. Et là, j'ai donné mon violon à réviser et je me suis mise à jouer jusqu'à 5 ou 6 heures par jour. Et je disais à Aaron Appelfeld, justement, tu sais, en ce moment, je n'écris pas, je joue. Et il me disait, mais tu cherches certainement la musique de ton prochain livre. Et le livre suivant, ça a été Dans le faisceau des vivants. Et dans la foulée, parce que pour moi, là, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a quelque chose qui se joue dans l'orchestre et qui est politique, humain et sensible, qui est extraordinaire. J'ai rejoint l'orchestre de l'INALCO, sous la direction de Garance Corollaire. Et donc, depuis 3-4 ans, enfin cette année, malheureusement, nous ne jouons pas, une fois par semaine, c'est absolument sacré. Je refuse les invitations ce soir-là. Je m'achemine vers l'INALCO pour jouer en orchestre. Et pour moi, l'orchestre, c'est le modèle de ce que devrait être une société idéale, où tout le monde a sa voix, écoute celle de l'autre, respire ensemble, porte. Enfin, je veux dire, ce sont des moments qui sont infiniment précieux pour moi, où je sens ma propre fragilité, parce que vraiment, je suis pas une bonne musicienne à mes yeux ni à mes oreilles, et portée par la puissance de mes camarades musiciens.
Thank you. C'était l'andante du concerto pour violon en la mineur, BW 1041 de Jean-Sébastien Bach, Nemanja Radulovic au violon, accompagné par l'ensemble Double Sens. C'est ainsi que se termine ce Musique et moi avec vous, Valérie Zanatti. On aurait voulu écouter plein d'autres musiques ensemble, du Leonard Cohen.
Mais oui, puisque c'est peut-être un goût plus surprenant pour les gens qui sont familiers d'Aaron Appelfeld, mais il aimait beaucoup Leonard Cohen, et en particulier une des dernières chansons qui s'appelle You Want It Darker, qui se termine par le mot en hébreu « Hineni, me voici », qui est la réponse faite à Dieu dans la Bible lorsque un homme est convoqué par lui. Et voilà, je pense que ça aurait pu être étonnant, mais comme Aaron le disait tout à l'heure, « Less is more ».
Ce sera le morceau caché de cette émission.
Exactement, merci. J'aime bien cette idée.
Merci beaucoup Valérie Zanatti.
Merci à vous.
Vous venez de traduire aux éditions de l'Olivier « Mon père et ma mère » d'Aaron Appelfeld, dont vous avez lu un extrait tout à l'heure sur
en
le
hébreu
Nigoun.
Et en français.
En hébreu et en français sur le Nigoun de Blore. Et puis vous avez aussi publié aux éditions Dans le faisceau des vivants. Donc c'est le récit de votre relation de traduction et d'amitié avec Aaron Appelfeld. Et puis vous venez aussi d'écrire à l'école des loisirs un livre pour enfants, Marie-Lou et le grand incendie. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il est aussi question de musique dans ce livre pour enfants. Un grand merci à Philippe Mercher à la technique ce matin, Cyrielle Weber à la réalisation, attachée de production Marie-Ferdinand. Un très beau dimanche à vous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.